Alors aujourd'hui, le cours est intitulé « La connaissance de foi ». Est-ce que la foi livre une connaissance ? Est-ce qu'elle donne quelque chose à connaître ? Est-ce qu'elle est un savoir ? Ou bien est-ce qu'elle est seulement une croyance que l'on peut critiquer au nom des sciences, au nom de la philosophie, et qui n'a pas de statut sérieux ? Les feuilles sont sur la chaise, là, à l'entrée. Et est-ce que la foi a un noyau de type connaissance qui résiste à une critique des sciences humaines, par exemple, ou de la philosophie ? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la connaissance, et quel type de connaissance dans la foi, dans ce que nous croyons ? Bon. Il y a beaucoup de croyances ici-bas, dans la connaissance quotidienne, on croit énormément de choses. Et je suppose que nous tous, vous pouvez prendre une feuille, si vous voulez bien, là, sur la chaise. Elle n'est pas assez évidente, je crois. Toutes les connaissances scientifiques que nous avons, quelques scientifiques ont fait le travail de les vérifier vraiment. Nous croyons, nous lisons dans des livres, nous croyons que c'est sérieux, nous trouvons que c'est cohérent finalement quand on lit 4 livres, 6 livres, bon. Mais malgré tout, notre connaissance quotidienne, mais aussi notre connaissance scientifique, repose beaucoup sur des croyances. Évidemment, nous essayons de croire le moins possible de manière naïve, de manière erronée, bien sûr. Et donc il y a une large part dans notre savoir de confiance dans le témoignage des autres. Alors ça, c'est important. Sous forme d'introduction, je voudrais rappeler la suite des 4 chapitres que je vous ai présentés, que je vous présente. La connaissance quotidienne, vous retrouvez ça sur votre petit tableau, au numéro 4. Il y a, dans la deuxième colonne, il y a la connaissance quotidienne, il y a le savoir des sciences, sciences dures, formelle, empirico-formelle, science humaine, et puis alors il y a le savoir, la connaissance philosophique, qui passe souvent dans une certaine sagesse, et enfin il y a ce que nous allons examiner aujourd'hui, la connaissance de foi, si elle existe, et comment est-ce qu'elle se présente. Alors la suite de ces 4 chapitres, pour moi, est extrêmement importante. Comme je l'ai dit, la connaissance quotidienne est immense, énorme, intuitive, et souvent nous n'y faisons pas attention, et pourtant elle est le terreau, le terrain de toutes les autres connaissances. C'est à partir de là que tous les savoirs scientifiques s'élaborent progressivement dans l'histoire, et la philosophie, comme je l'ai dit, n'est pas une science, à mon avis. Elle est une activité de l'esprit qui clarifie la connaissance quotidienne, qui clarifie le savoir scientifique. La philosophie, à ce niveau-là, est comme un métalangage qui vérifie le langage de la science. Mais ça, il y a encore beaucoup de philosophes positivistes qui acceptent cette définition de la science, pardon, de la philosophie. Moi, je vais un peu plus loin. Ce n'est pas que un métalangage de clarification, c'est aussi une prise de parole en première personne, dans un jeu qui se responsabilise moralement, personnellement, par rapport à la connaissance et au savoir que ce jeu possède. Un philosophe parle en jeu. Un scientifique peut parler en jeu transcendantal, le jeu de toute l'humanité, le jeu de la rationalité, de la communauté des scientifiques. Un physicien ne s'engage pas existentiellement dans des affirmations. Alors peut-être que ça le passionne, évidemment, mais ça, c'est l'aspect psychologique de sa recherche, je dirais. Mais quand il fait de la science, il parle au nom d'un jeu transcendantal. Le jeu de la rationalité, de l'humanité. Tandis que le philosophe ne peut pas faire ça. Le philosophe, au contraire, s'engage en jeu. Il dit « moi », et avec un nom propre, « moi, une personne », eh bien voilà ce que je tire comme conclusion de tout ce que je connais, de tout ce que je vois autour de moi. Qu'est-ce que je peux connaître? Qu'est-ce que je dois faire? Et que m'est-il permis d'espérer? Les 3 questions de Kant. Le philosophe donc ne veut plus s'en remettre au « on » du savoir scientifique, il se pose la question existentielle de son être même. Qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire? Voilà, c'est une formule très simple pour définir la philosophie. Philosophie, c'est le travail de celui qui s'interroge « Qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire ?» Alors, la foi vue par un croyant. Ici, comme en philosophie, il y aura une prise de parole en jeu. Je, moi, ici en particulier, qui vais prendre la parole au nom de la foi que j'ai. Mais bien sûr, je vais essayer de le faire d'une manière universelle, d'une manière communicable, faisant de ce que je dis l'objet d'une réflexion commune avec vous. Et donc je vais réfléchir sur la foi, mais je demande qu'on me permette d'exprimer la foi, ma foi, telle que moi je la vois. Alors bien sûr, auparavant, la foi, la religion, a pu être l'objet de sciences humaines. Il y a énormément de sciences humaines qui s'intéressent à la foi, la psychologie, la sociologie, l'histoire, la linguistique, toutes les sciences humaines en fait. L'ethnologie, toutes ces sciences se sont aussi intéressées à la foi, à la religion, et on dit des choses à ce propos-là. Des choses vraies, plus ou moins vraies, etc. Bon, on peut en prendre acte. La philosophie elle-même a aussi une parole légitime sur la foi, sur la religion, puisque le philosophe essaie de se situer vis-à-vis de tout phénomène humain qu'il rencontre. Il ne le fait pas comme le scientifique, mais il le fait. Il le fait quand même. Aucun objet humain ne lui échappe. Il peut s'atteler à n'importe quelle tâche de réflexion. C'est ainsi qu'en philosophie, eh bien, on trouve énormément de philosophes qui se sont intéressés, par exemple, aux preuves possibles de l'existence de Dieu, à la possibilité d'une révélation, quelque chose qui viendrait d'ailleurs. Dieu qui nous parle. Est-ce que c'est possible au niveau rationnel de croire qu'une révélation peut avoir lieu? La réflexion que j'entreprends maintenant, moi ici devant vous, est censée être informée de toutes ces recherches. De toutes ces recherches des sciences humaines, de ce que la psychologie dit de la foi, des croyances, de la manière de mal croire, la sociologie, de la fausse religion, tout ça, la philosophie de l'impossibilité de ceci ou de cela. Je suis censé être au courant de cela, avoir jugé si ces recherches sont honnêtes ou pas. Et si elles sont honnêtes, je dois honnêtement les admettre moi-même. Parce que je suis aussi un homme rationnel. C'est pas parce que je crois que je suis automatiquement un imbécile qui ne fait que croire tout ce qu'on n'importe qui raconte. Je suis aussi un homme rationnel. Je pourrais être un scientifique, un philosophe, tout croyant, peut-être n'importe quoi, disons, au niveau du savoir, il peut continuer à croire, il peut même dire que la foi est le plus important pour lui, dans sa vie existentiellement. Et donc il faut respecter cette attitude que l'on constate. Donc le croyant que je suis, le croyant que beaucoup d'autres sont bien sûr, même instruit de toutes ces réflexions préalables des sciences humaines, de la philosophie, se prétendent non réduits à cela. Ils disent « oui, c'est vrai, on peut examiner ça de ce point de vue-là, on peut dire que dans l'histoire, la réforme est due non pas à une intuition mystique ou religieuse de Luther, mais à des conditions économiques, à des conditions politiques, on peut dire tout ça. Mais ce n'est pas exclu que ça fasse partie de la réflexion. Mais le croyant que je suis ne se sent pas réduit à cela. » Tout en concédant, tout en acceptant toute une série de choses, je peux dire, dans ma foi, il y a plus que ce que vous dites. Il y a encore plus. Il y a encore quelque chose qui reste après ce réductionnisme que vous m'imposez. Eh bien, il y a un résidu. Je prétends qu'il y a un résidu. Essayez de le comprendre ou non, mais en tout cas, moi, je prétends que la foi est quelque chose de plus que tout ce que ces sciences ont dit, que cette philosophie a dit. Et la foi, c'est quoi ? C'est quelque chose de très simple, c'est une attitude très profonde et très simple, mais qui entraîne d'énormes implications pour la vie du croyant, et de l'humanité tout entière d'ailleurs. Chaque croyant individuel, bien sûr, eh bien, ça entraîne des conséquences pour lui s'il prend sa foi au sérieux. Mais lorsque les croyants sont réunis en communauté, et tous les croyants, pratiquement de toute la religion, appartiennent à une communauté, le fait d'être en communauté est important pour la foi, même si chacun se situe personnellement aussi, eh bien, je dirais, ça a d'énormes implications pour mon histoire personnelle, pour l'histoire de l'humanité, pour l'histoire de ce siècle. Nous le voyons bien aujourd'hui. Il ne faut souvent, l'occidental européen croit que le monde est occupé à devenir athée, que nous ne sommes plus qu'une petite poignée de gens qui croyons, etc. La majorité de l'humanité croit, et même est monothéiste, la majorité, 53-56%, je ne sais pas combien, mais on est à ces chiffres-là. Et l'autre partie n'est pas nécessairement athée au sens où nous rencontrons des athées, nous, aujourd'hui, en Belgique. Ils sont peut-être dans un autre type de spiritualité, mais ils ne sont pas nécessairement athées. Donc là, il y a une erreur de perspective qu'il faut éviter. Alors, savoir et connaissance. Savoir au pluriel et connaissance au singulier. La foi livre une connaissance spécifique appuyée sur un savoir minimal. Ça, c'est un peu une de mes thèses, énormes implications pour ma vie existentiellement, et pourtant un savoir très minimal, pas grand-chose à connaître. Ce savoir, on pourrait le résumer en quelques propositions très simples, et qui, moyennant la grâce de Dieu, selon ma foi, moyennant mon effort personnel, eh bien, est une connaissance complète, et d'une certaine manière indépassable, et qui va même peut-être juger toutes les autres. Alors, comment cela va-t-il se faire? Les propositions de foi auxquelles je fais allusion ici, ça peut être quelques versets de l'Écriture. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Ou bien, heureux les pauvres en esprit. Ou bien, voilà, une phrase de l'Évangile, une phrase de saint Paul. Ou bien, quelques lignes du Credo. Dieu est personnel, voilà un exemple. Dieu est personnel, les mêmes trinités de personnes. Il est amour, il a créé tout ce qui est par amour, et nous sommes ses enfants adoptifs par grâce, au travers d'un salut qui nous donne une vie éternelle de communion avec lui. Voilà par exemple une brève formule de la foi, de ma foi. Karl Rahner a fait des études sur les brèves formulations de la foi. Voilà une brève formulation, là réside toute ma foi. Il n'y a pas plus. Bien sûr, chaque mot est pesé, chaque mot est dynamique dans ma vie. Et donc la foi, j'en parlerai plus après, la foi ce n'est pas la théologie. La foi ce n'est pas la somme de saint Thomas d'Aquin. Vous ne croyez pas mieux ou plus lorsque vous avez lu la somme que lorsque vous ne l'avez pas lu. Vous avez fait plus d'exercices, vous avez mieux compris peut-être certaines implications de la foi, mais un homme tout à fait ordinaire, tout à fait simple, eh bien, peut comprendre ce qu'est la foi. Et même les hommes les plus intelligents, souvent, quand ils prient de manière très simple. S'ils ont une foi solide, ce n'est pas dans la complication de leur pensée que réside la solidité de leur foi ou la beauté de leur prière. Donc, une quantité de savoir minimale, accessible à tout esprit humain, et livré, c'est vrai, dans une histoire. Dans une histoire. La foi et l'histoire, c'est très lié. La foi de celui qui est tout seul, avec aucune connexion avec l'histoire, et qui dit « est-ce que je crois ou je ne crois pas ?» Ça me semble compliqué. La foi se livre dans une histoire. Une histoire sainte, comme on dit, l'Écriture sainte. Une très longue histoire qui se trouve résumée donc dans quelques mots. Et cette histoire est importante pour l'homme que je suis et pour l'humanité que je partage avec tant d'autres croyants. La connaissance que livre cette foi est un savoir minimal, mais est une connaissance énorme. Parce que c'est une connaissance salvifique. Alors voilà aussi un mot que je voudrais souligner, une connaissance salvifique, une connaissance qui me donne le salut. Alors le salut, c'est quoi? Eh bien, on pense souvent au salut comme quelque chose qui répare, qui guérit, etc. Mais salus en latin signifie la bonne santé. La bonne santé. Et donc, un savoir salvifique, c'est un savoir qui peut-être, oui, me guérit, me pardonne, mais surtout, à mon avis, eh bien, me donne une plénitude d'être, accomplit ma destinée, me remplit ontologiquement, métaphysiquement et surtout, bien sûr, religieusement, d'une plénitude qui met en marche ma liberté personnelle et commune avec toute l'humanité vis-à-vis d'une personne que je ressens comme, que je vis comme étant l'origine et la fin de mon existence. C'est donc ici que je vais repréciser un peu la différence entre savoir et connaissance. Savoir, c'est quelque chose de plus analytique, quelque chose de plus déductif, quelque chose de plus algorithmique, pour prendre des mots dont on se servira dans la deuxième partie du cours. C'est quelque chose où il y a plus de rigueur analytique, mais quelque chose de beaucoup plus piétonnier aussi, je dirais, de moins synthétique, de moins spéculatif, de moins englobant. Le savoir, ce sont des accumulations de choses que l'on sait, que l'on connecte, tandis que la connaissance, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus synthétique. Connaître, eh bien, l'exemple même, c'est connaître une personne. Connaître une personne, vous connaissez votre épouse, vos enfants, vous connaissez vos parents, mais ça veut dire quoi connaître ? C'est pas un bouquin que vous écrivez parce que vous mettez l'une derrière l'autre des savoirs qui vous donnent la connaissance d'une personne. Connaître, c'est une familiarité, c'est quelque chose d'assez simple et pourtant d'extrêmement complexe, d'extrêmement vital, continuellement en action, en interaction à l'intérieur de nous-mêmes et autour de nous. La connaissance peut impliquer de multiples ignorances, impliquer de multiples oublis. La connaissance reste. La connaissance reste. Et la connaissance, eh bien, elle culmine, je crois, dans ce que la philosophie entrevoyait comme une sagesse. Une sagesse, c'est quoi ? Eh bien, c'est finalement une vision d'ensemble où le silence a sa part, où la paix a sa part. Après le bruit des recherches qu'il faut faire, après la polémique aussi des efforts entre personnes qui ne s'entendent pas ou bien qui ne sont d'avis différents, la sagesse est comme une docte ignorance. Alors ça, c'est une formule, je ne dis pas qu'elle se réduit à ça, mais c'est une belle formule. C'est une formule de Nicolas de Cuse, qui est né sur la Moselle, là pas très loin, ici, un peu plus bas que Trèves, à Bernkastel-Cuse, précisément, Nicolas de Cuse, un grand scientifique et théologien de 15e siècle, je crois. Voilà, une docte ignorance. Après avoir étudié, c'est un gars qui savait à peu près tout ce qu'on savait à son époque, et qui en même temps était un diplomate, un politicien, il a été faire des ambassades en Orient pour le pape, etc. Et il disait, tout ce que je connais, c'est une docte ignorance. Voilà, c'est une ignorance instruite de beaucoup de choses, mais ça reste d'abord une admiration devant tout ce que je ne connais pas, et le peu de choses que je connais me fait voir tout ce que je pourrais encore connaître, une docte ignorance. Et donc je pense que la connaissance quotidienne est vraiment une connaissance, et la foi est également une connaissance, alors que les sciences sont certainement des savoirs. Alors on peut parler de la connaissance scientifique évidemment, mais je dirais ici, je précise savoir par rapport à connaissance. Les sciences, ce sont des savoirs analytiques, connectés le plus synthétiquement possible, le plus déductivement possible, mais ce n'est pas une intuition, ce n'est pas une Weltanschauung, ce n'est pas une perspective sur le monde, la science. C'est une explication du comment, ce n'est pas une considération du pourquoi. Et la philosophie est aussi une masse de savoir qui se transforme progressivement en connaissance de sagesse, me semble-t-il. Donc voilà, ça c'est la différence entre savoir et connaître. Les sciences humaines nous ont révélé que il y avait, sciences humaines, vous vous souvenez, les caractéristiques des sciences humaines, c'est, bon, bien sûr, l'homme est le sujet et l'objet, mais le sujet entre crochets, l'objet, il y a une partie formaliste, peut-être, dans la science humaine, mais il y a surtout une partie herméneutique. Herméneutique, ça veut dire interpréter quoi ? L'intentionnalité et la singularité. L'intentionnalité et la singularité. Les objets physiques n'ont ni intentionnalité, ni singularité. Dès que vous introduisez l'intentionnalité dans les sciences de la nature, on dit « Ah, vous faites de l'animisme hein? !» Non, non, la téléologie, ça c'est pas pour les sciences. Alors, grosse question, hein, parce que tous ceux qui réfléchissent à la théorie de l'évolution mettent tout le temps de l'intentionnalité là-dedans. Hein, tout le temps. Alors, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas, mais tout le monde le fait quand même. Hein. Donc, la girafe, bon, son cou a grandi parce qu'elle voulait prendre la feuille là au-dessus. Bon, mais ça, c'est absolument pas scientifique. C'est anti-scientifique. On met une intentionnalité là où il n'y a pas. Mais il y aura une leçon sur l'évolution, donc on reprendra ça. Donc, dans les sciences humaines, on tient compte de l'intentionnalité et de la singularité de la personne. Un homme, alpha, beta, gamma, c'est bien, mais chaque homme a une personnalité. Eh bien, les sciences humaines nous ont fait découvrir que l'homme veut que sa vie ait un sens et que ses gestes et ses comportements, d'habitude, est guidé par un sens, mais que sous le sens, il y a souvent un irrationnel, un non-sens. Il est tiraillé entre le sens qu'il veut donner à sa vie et le non-sens de d'où vient-il, ben, on ne sait pas trop. Hein. Il y a bien sûr les pulsions peut-être, l'irrationnel. Il y a aussi la liberté qui peut dire oui ou qui peut dire non, hein, qui peut vouloir le mal, qui est complètement irrationnel, mais il est pourtant bien présent dans notre humanité. Il est complètement irrationnel. Voilà, la pile a claqué et je pense qu'il n'y a pas d'autre pile, à moins que ce soit celle qui est ici. Dans le bon sens. Ça marche ? Oui, je crois que ça marche. Voilà, je n'avais pas vu que cette pile était chargée, était là. Donc, il y a un irrationnel que les sciences humaines mettent en évidence. Mais cet irrationnel, je voulais le dire au cours et on m'a posé la question après, hein, mais ça m'a échappé. Cet irrationnel, il est irrationnel pourquoi ? Parce qu'il est infrarationnel ou parce qu'il est suprarationnel, hein ? Cet irrationnel, bon, on voit bien qu'il y a des choses qui sont un peu absurdes au niveau de la raison, mais il y a des choses qui interrogent la raison, hein, qui vont peut-être plus loin que ce que la raison ose penser, hein, ose affirmer et dire dans cet irrationnel. Il y a un irrationnel qui soulève l'homme vers le haut plutôt que de le tirer vers le bas. Eh bien, est-ce que le savoir de la connaissance de foi n'a pas partie liée avec cet irrationnel qui peut-être est suprarationnel ? En tout cas, il y a des exemples innombrables, dans un sens, dans l'autre sens aussi, mais dans un sens, c'est-à-dire de grands intellectuels qui adhèrent à ce genre de propositions. Malgré tout leur savoir scientifique très rigoureux, eh bien, ils disent, moi je suis croyant, et ma foi n'est pas incompatible avec ma science, et inversement. Et même, je préfère ma foi de charbonnier à la foi des théologiens. Hein. Je n'ai pas besoin d'étudier la somme théologique, ça ne m'intéresse pas. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est la foi, qui me guide peut-être même dans ma recherche scientifique. C'est donc une connaissance existentielle, très importante. Hein. Les sciences de la nature, les sciences formelles n'ont rien d'existentiel. Ça ne change rien à votre vie, qui est des photons ou des protons, hein, au niveau du sens de votre vie. Quelque chose venu d'ailleurs. Voilà, cet irrationnel, d'où viendrait-il ? Ce suprarationnel, d'où viendrait-il ? Eh bien, quand le philosophe, je reprends les trois premiers chapitres, hein, connaissance quotidienne, scientifique et puis philosophique, quand on a fait tout ça, est-ce qu'on est satisfait ? Le philosophe, je l'ai dit, hein, il veut parler en jeu. Il veut prendre la responsabilité de ce qu'il pense, de ce qu'il veut, etc. Et en même temps, c'est aussi un de ses principes, Il veut s'en tenir à la raison humaine que l'on partage entre nous. Il ne veut pas faire appel à d'autres. Il ne veut pas croire à un tel parce que c'est une autorité, mais il ne veut pas croire à quelque chose qui viendrait du ciel parce qu'il dit « moi je travaille à hauteur d'homme ». À hauteur d'homme. La philosophie se situe à hauteur d'homme. C'est une option méthodologique qui n'exclut pas qu'il y ait autre chose que autre chose plus haut que l'homme, mais c'est sa méthode. Hein, c'est sa méthode, comme le scientifique des sciences empirico-formelles dit « moi je veux des objets sensibles ». Je veux des objets sensibles, c'est ma méthode. Je ne dis pas par là qu'il n'existe pas des objets immatériels, mais mon objet, il est sensible, il est matériel. De même, le philosophe dit, je ne me décide pas si Dieu existe ou pas, s'il faut prier ou pas. Moi, je fais ma réflexion à niveau d'homme, à hauteur d'homme. Je veux pouvoir parler avec tous les hommes qui sont rationnels et de bonne volonté. Je ne fais pas appel à des autorités humaines ou suprahumaines. Je fais ce travail à niveau d'homme. Mais un croyant qui serait un excellent philosophe peut se poser aussi la question à un autre moment de sa réflexion. Après tout ce que j'ai fait à niveau d'homme, est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de l'homme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me parler, qui serait au-dessus de moi? Alors il constate simplement qu'au long des siècles, depuis des siècles, on parle d'une alliance entre Dieu et l'homme, une alliance dont Dieu a pris l'initiative. C'est une alliance, c'est une grâce, c'est un don auquel Dieu m'invite à répondre. Ça, c'est vraiment caractéristique de la foi. Ici, je n'ai rien à conquérir, je n'ai pas à travailler à niveau d'homme, et uniquement à niveau d'homme. Hein. Je m'ouvre à quelque chose qui vient d'ailleurs. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que c'est sérieux? Je n'en sais rien. Je constate dans la culture que c'est présent. Faut-il présent prendre au sérieux cette offre que nous propose, eh bien, en tout cas, la tradition judéo-christiano-musulmane, hein, qui forme cette majorité d'hommes croyants, de l'humanité. Ici, bien sûr, je voudrais commencer par faire une distinction qui me semble capitale. Je parle d'une tradition religieuse. Mais la religion elle-même peut être pur fétichisme. Elle peut se tromper. Elle peut affirmer un Dieu que l'on s'est construit. Que l'on s'est construit peut-être même à partir de la Bible, hein, mais que l'on s'est construit. On peut même partir d'une tradition authentique, mais on la façonne à sa mode. Et on finit par faire de la religion, par exemple, une morale, hein, ou une explication du monde. Je crois que c'est la tentation de l'idolâtrie, le fétichisme impossible de la veine religieuse. Un Dieu que l'on sert, que l'on comprend, que l'on utilise, et non pas un Dieu qui est infiniment au-delà, et qui m'interpelle, qui m'appelle, et qui vient de plus loin, du haut de sa transcendance. Je fais souvent de Dieu, eh bien je pourrais faire de Dieu quelqu'un aussi à hauteur d'homme, que j'utilise. Hein. Alors peut-être un peu plus haut, au niveau des masses, au niveau de la politique, au niveau des motivations d'une guerre, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est cette religion fétichiste, je crois, qui fait la guerre au nom de Dieu. Hein. Que ce soit dans le passé chrétien, ou que ce soit dans l'actualité, je crois que la vraie religion ne s'empare pas de Dieu pour en faire le motif de ses violences, etc. De manière plus subtile, on peut faire de Dieu une idole, non pas en faisant la guerre de manière fanatique, mais en réduisant Dieu à être une métaphysique. Hein, une métaphysique ou bien une morale, ou bien une pratique, ou bien une théologie. Je crois que tout cela, ce sont des tentations qui éloignent de nous la vraie offre que Dieu nous fait, hein, de la distance maximale de son infini qui nous rejoint. Bien sûr, la vraie religion impliquera une morale, impliquera une manière de vivre, bien sûr, une manière de penser, mais elle n'est pas égale à tout cela. La vraie religion, je crois, eh bien, c'est quelque chose qui dépasse tout cela.
qui dépasse tout cela.
C'est un Dieu qui nous vient de l'infini et qui est indisponible. On ne peut pas mettre la main sur lui. Alors, Saint Anselme dit « Seigneur, tu n'es pas seulement tel que plus grand ne peut être pensé, mais tu es quelque chose de plus grand qu'il ne se puisse penser. » Alors, c'est une formule très célèbre, hein, mais pour prendre un bel schéma, évidemment, hein, Dieu n'est pas le maximum de ce qui peut se penser, parce qu'on peut toujours penser plus, évidemment, et c'est comme dire, on va prendre le nombre le plus grand. Le nombre le plus grand, on peut toujours ajouter un, on a encore un plus grand. Hein. Il n'est pas seulement tel que plus grand ne peut être pensé, il est quelque chose qui ne puisse être pensé. Il est ici avec une distance qui va au-delà. L'infini, ce n'est pas d'ajouter du fini, du fini, du fini, ça c'est le faux infini, du fini, du fini, du fini, et on arrivera bien. Non, c'est un autre niveau. Et de même que je vous ai expliqué l'autre fois, je ne sais pas si je vous ai convaincu, hein, que le monde n'existe pas. Vous vous souvenez de ça, hein? Le monde n'existe pas. Dans la mesure où le monde serait un concept qui reprend tout et que l'on peut comme utiliser de l'extérieur du monde. Hein, comme si je voyais le monde, je travaille sur le monde est là et moi je suis extérieur au monde et je sais ce qu'est le monde. Mais non, je suis dans le monde. Et même je suis dans le monde, même dans une toute petite région du monde. Et ce que je connais, c'est ceci. Je ne peux jamais me mettre ici pour dire, voilà, le monde est ceci, le monde est cela. Le point de vue de nulle part. Ou le point de vue de Dieu, comme on l'a dit parfois. Eh bien, même l'idée du point de vue de Dieu, c'est déjà encore une chosification de Dieu. C'est encore une chosification de Dieu. Dieu est encore aussi quelque chose d'autre que ceci, parce que ça fait partie de l'idée du monde, des fausses du monde, hein, que de croire que Dieu est extérieur au monde pour le regarder, pour le guider, pour le etc. De même que le monde n'existe pas comme un tout que l'on pourrait regarder de l'extérieur, de même Dieu n'existe pas comme un objet du monde, si grand soit-il, hein, si parfait soit-il, même le plus grand, le plus parfait, non, il n'existe pas comme un objet du monde ou comme un objet extérieur au monde. Dieu est pour nous une idée limite qui, selon une tradition importante de la religion, se concrétise bien sûr dans une révélation et même dans une incarnation, mais une incarnation qui nous vient du plus loin pour se familiariser avec nous. Ça, c'est évidemment le mystère de notre révélation. Mais Dieu, je crois, et ça ce n'est pas de la philosophie, c'est plutôt comme une intuition religieuse mystique. Dieu, l'idée de Dieu est celle de l'existence d'un infini incompréhensible, porteur de sens, suprarationnel, hein, incompréhensible et pourtant porteur de sens, au milieu duquel nous vivons, en disant au milieu, je fais un peu ce cercle, mais bon, j'essaie d'utiliser les mots comme je peux, hein, au milieu duquel nous vivons sans y être perdus, et qui au contraire nous intègre à nous-mêmes, aux autres, et à ce qui nous entoure. Il existe un sens du lointain le plus absolu, qui reste un mystère, qui se livre pourtant dans une histoire difficile à déchiffrer, c'est vrai, hein, mais cette histoire, elle est là, et nous y sommes intégrés. Et il y a dans cette histoire bien plus en jeu que mon simple destin individuel ou que le destin des chrétiens catholiques, par exemple. Par rapport à cet infini, il y a quelque chose à la fois mystérieux et à la fois familier qui donne sens, qui nous intègre. La religion, dirais-je, est un retour sur soi depuis l'infini, par le détour extérieur le plus large. De nouveau, en disant extérieur, large et tout ça, je me situe comme dans un espace, mais voilà, je cherche des mots pour le dire. L'esprit humain, dans la vraie religion, contrairement au fétichisme évidemment, s'ouvre à quelque chose de radicalement indisponible, indisponible, qui est le contraire d'une explication du monde, ou d'une explication de quoi que ce soit, explication dont j'ai besoin ici, maintenant, tout de suite. Ça explique peut-être beaucoup de choses, mais pas à la manière d'une réponse à une question que je peux formuler simplement. L'acceptation de cette offre qui me vient du plus loin implique une reconnaissance radicale de notre finitude. De notre finitude. Mais pas de manière triste, pas de manière désespérée. Voilà, nous sommes ce que nous sommes. Reconnaissance radicale de notre finitude et prise de distance maximale par rapport à soi, par rapport à soi-même. Je crois que rencontrer le vrai Dieu nous permet d'être totalement nous-mêmes tout en ayant une grande distance par rapport à beaucoup d'éléments de notre propre moi. La foi de cette religion non fétichiste tournée vers le suprarationnel et l'infini est salvifique. Salvifique, comme je disais, bien sûr au sens où peut-être elle nous répare, elle nous pardonne, elle nous remet sur pied, mais surtout au sens où elle nous introduit dans la plénitude de l'être dans lequel nous sommes. Dans lequel nous sommes intégrés comme des personnes, avec tant d'autres réalités autour de nous qui nous intègrent en elles, ça nous relativise et en même temps ça nous valorise, ça nous personnalise. Voilà comment je crois, pouvoir exprimer quelque chose à propos de ce Dieu dans lequel je crois. Et la foi est une grâce, un don de Dieu. Elle est salutaire, elle est un don de Dieu. Bien sûr, j'ai un acte de foi à faire, mais cet acte de foi est second par rapport à une offre qui est faite, et que je ressens, que j'entends. La foi implique l'espérance, implique la charité, la foi est libre, on ne peut jamais forcer quelqu'un à croire, la foi est libératrice aussi, elle demande d'agir, mais elle accomplit aussi des œuvres en moi au-delà de mes capacités propres. Elle me libère de manière à ce que je puisse agir. Et dans cette perspective, l'existence humaine reste une question, mais non pas une énigme insoluble. L'homme ne se pose pas, lorsqu'il entend cette parole de Dieu, il ne se pose plus la question de lui-même comme « est-ce que c'est absurde ou pas ?» Il dit « c'est quelque chose de grand, de beau, d'apaisant, mais ça reste indisponible comme une théorie que je pourrais utiliser moi-même, que je pourrais comprendre jusqu'au bout. La connaissance de foi est une connaissance complète, qui n'a pas besoin d'autre chose. Cette connaissance est accessible à tous, offerte à chacun. Lorsque je disais qu'elle est un don de Dieu, je crois que certains disent « Ah bon, elle est un don de Dieu, donc moi je ne l'ai pas reçu, donc c'est pas un don de Dieu, Dieu est injuste, etc. » Je crois que ce don est proposé à tout le monde, et si vous me dites aujourd'hui que vous ne l'avez pas reçu, eh bien je vous dirai, ben demain peut-être que vous le recevrez. La question est posée, je crois, il faut la voir dans une dynamique complète, mais je crois qu'à tout moment, quelqu'un peut recevoir ce don de foi, tout en disant que cette foi n'est pas nécessairement explicite, au sens où je crois en Jésus-Christ, etc., comme le dit le credo de Nicée-Constantinople. Il peut y avoir beaucoup de manières, je crois, de s'ouvrir à ce don de Dieu, à ce don de la grâce, et qui nous met dans une confiance fondamentale, radicale, par rapport à ce qui nous entoure, et qui, je crois, transfigure notre existence. Karl Rahner a bien expliqué ça dans différentes œuvres, notamment « Appel au Dieu du silence ».« Appel au Dieu du silence », c'est 10 manières de rencontrer Dieu, mais pas à travers la messe ou à travers l'écriture. Mais rencontrer Dieu, par exemple, à travers l'amour, bien sûr, la naissance, à travers la surprise, à travers le drame, etc. Il y a différentes manières de rencontrer Dieu. Et alors, il développe très bien ça aussi dans un autre ouvrage qui s'appelle « Hör des Wortes », celui qui écoute la parole. Mais une parole qui est, la plupart du temps, silencieuse. Mais qui se dit pourtant à travers une histoire, parce que l'histoire est une dimension de l'homme. Et si Dieu veut parler à l'homme, il doit lui parler à travers son histoire, à travers son intelligence, bien sûr, c'est une caractéristique de l'homme, mais l'intelligence n'est pas atemporelle. Hein, Dieu se dit à travers la rationalité de l'homme et à travers l'histoire de l'homme, et aussi la contingence pure. Foi et théologie. Alors, vous vous souvenez que au Schleiermacher, c'est un petit schéma à la Schleiermacher, il y avait les sciences théoriques et les sciences pratiques, et la théologie, selon lui, était une science pratique. Une science pratique qui aidait à l'organisation de l'Église, à la communauté des croyants. La théologie n'est pas d'abord une science spéculative, selon lui, une pure science. Hein. C'est une science pratique qui essaye d'expliciter le mieux possible tout ce qu'il y a dans la foi et dans la tradition qui nous offre cette foi, de manière à ce que les hommes puissent s'entendre entre eux et former une communauté sous la conduite de Dieu, de l'Esprit-Saint. Comme je vous l'ai dit, la foi, ce n'est pas la théologie. On peut faire beaucoup de théologie, mais en faisant de la théologie, on peut perdre la foi. Il y a des exemples classiques, hein, de gens qui, à force de faire de la théologie, perdent la foi. Alors pourquoi ? Ben parce que peut-être qu'ils s'y sont mal pris, ou parce que leur professeur de théologie eux-mêmes était je ne sais pas quoi. Hein, mais autrefois, en Allemagne, au 18e, 19e siècle, il y a eu des grandes controverses, hein, pour savoir si tel et tel professeur de théologie n'était pas athée, quoi. Dans ce cas-là, il fallait les enlever de l'université, mais enfin, oui, mais enfin, etc. Il y a eu des grandes questions, hein, autour de cela. Mais qu'est-ce que c'est être athée? Qu'est-ce que c'est avoir la foi quand on fait de la théologie? Parce que la théologie, c'est combien de sciences? Ça, c'est une question que se pose Pascal. Pascal, qui n'a eu aucune formation théologique, ni d'ailleurs philosophique, hein, il n'a pas étudié les philosophes, il a étudié les mathématiques. Et évidemment, avec sa grande intelligence, à partir de là, il a fait de la philosophie, mais je crois qu'il lui manquait quelques cours de philosophie pour se situer, je crois, plus exactement par rapport à beaucoup d'autres philosophes. Et il s'est trompé plus d'une fois dans les controverses philosophiques et théologiques, mais pas en mathématiques, évidemment. Là, son traité des coniques, il n'y a rien à y dire, c'est très très bien, hein. C'était à 14 ans ou à 15 ans, ok. Mais quand même, la théologie et la philosophie, ça s'apprend aussi. C'est une tradition dans laquelle on entre. Eh bien, la théologie n'est pas identiquement la foi. Quand Pascal, justement, a voulu étudier la théologie, on lui a dit, bon, ben, la théologie, il faut commencer par étudier le grec, l'hébreu. Ah bon, pourquoi? Ah, ben, parce qu'il faut le texte original. Puis il faut faire de la codicologie, ça veut dire comparer les manuscrits pour voir quel est le bon verset, etc. Ben ça, c'est pas de la théologie. Ah non, mais c'est le préalable. Préalable. Ah bon. Et il y a combien de préalables? Ben il y en a 18 hein, ou 22, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est de la théologie, bien sûr. Mais ce sont des sciences auxiliaires de la théologie. Et puis bon, la dogmatique est un peu plus la théologie, peut-être, et la morale et la mystique aussi. Mais malgré tout, toute cette science très intéressante qui peut vous informer, qui peut vous fortifier votre foi, ce n'est pas la foi. La foi, c'est encore autre chose. Et donc, quand des personnes se mettent à étudier la théologie pour approfondir leur foi, il faut toujours leur dire attention, hein, attention. Ce n'est pas simplement en accumulant des savoirs de type théologique que l'on va augmenter son acte de foi. Il y a des gens extrêmement simples qui sont devenus des saints sans avoir jamais lu une ligne de théologie. Hein. Commencer par la Vierge Marie, sans doute, hein, qui lisait bien l'Écriture, bon, peut-être, hein, mais je ne sais pas s'il avait une licence en théologie. Ni Dieu ni moi n'avons besoin de la théologie pour nous rencontrer. On peut en faire, c'est très intéressant, hein, je vous la recommande, mais la foi, c'est un autre type de connaissance, une connaissance par connaturalité, comme aurait dit Blondel en reprenant une formule de saint Thomas, une connaissance par connaturalité, par familiarité, par présence, par parenté. Hein. Je ne crois pas en la théologie, je crois en Dieu. Ou je crois dans l'amour, mais je ne crois pas dans la théologie. La théologie n'est pas objet de foi, elle est un instrument qui a différentes fonctions, mais pour Schleiermacher, sa principale fonction, hein, c'est d'organiser la communauté. C'est que la communauté est un langage commun pour s'organiser et se fortifier et grandir. Alors, quelle est la qualité d'une théologie ? Sa première qualité, c'est d'être compatible avec la foi. C'est de respecter la foi. Une bonne théologie respecte la foi. Elle est en syntonie avec la foi. Ça, c'est la première qualité d'une théologie. Ce n'est pas d'être brillante, ce n'est pas d'être englobante, c'est de respecter la foi. Et donc, il y a différents types de théologie, de nombreux types de théologie. Ce n'est pas parce que l'une est bonne que l'autre est mauvaise. Ce n'est pas parce que les deux respectent la foi qu'il faut choisir quelle est la meilleure. Non, ça dépend de beaucoup de facteurs, aussi des facteurs de type psychologique, culturel, etc. Mais traditionnellement, il y a un peu les théologiens de type augustinien et les théologiens de type thomiste. Et en fait, c'est le type platonicien et le type aristotélicien. Donc ça remonte à avant Jésus-Christ, hein, et à des philosophes païens. C'est une mise en évidence rationnelle qui n'est pas indispensable. Comme je vous ai dit, des millions de croyants n'ont jamais fait de théologie, des milliers de saints s'en sont passés tout à fait bien. Et la théologie prend des tournures différentes un peu selon les formes d'esprit. On peut bien sûr se bagarrer un petit peu, hein, mais il ne faut pas se bagarrer sur la foi. Et comme je vous le disais aussi, la théologie peut même obscurcir la foi. Obscurcir la foi. La foi est performative. L'acte de foi est performatif. La parole de foi est une parole qui exprime la foi et qui est un acte de foi. Quand je dis « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », je ne fais pas simplement un constat. Je constate quelque chose comme si je le savais. Non, il a l'allure, hein, cet acte de foi, a l'allure d'un constatif. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, mais je crois que la qualité première de ce credo, c'est que j'adhère à cela. Et en le disant, je crois. Vous avez parfois des personnes à la messe qui ne disent pas telle phrase de la prière du Notre Père ou du credo ou quoi, parce qu'ils n'y croient pas. Eh bien, en fait, ils ont raison. Ils ont raison parce que ce qu'on dit, eh bien, manifeste pour les autres, mais pour soi-même surtout, manifeste ce qu'on croit. Et donc, dire le credo, c'est vraiment faire un acte de foi. C'est énoncer quelque chose, mais c'est croire dans le moment même où on le dit. Ce langage est performatif, il m'engage, je suis auto-impliqué, mais je fais référence à Dieu aussi. Je crois en Dieu, c'est pointer vers cet infini, incompréhensible, qui me dépasse, mais auquel j'adhère, et qui se rend présent à moi dans le moment même où j'énonce, et qui est présent à moi comme celui aussi qui m'a invité à faire ce credo. Il a pris l'initiative de se proposer à ma foi. Donc quand je dis « je crois en toi Seigneur », je lui dis en même temps « tu te manifestes à moi maintenant ». Toi, tu as pris l'initiative de te manifester à toi maintenant. Je crois en toi parce que toi, tu m'interpelles, hein, et que je te réponds. Comme je vous disais aussi, tout cela n'est pas nécessairement explicite. Je crois qu'un homme sage qui accepte la vie avec gratitude et humilité, qui est attentif aux autres, qui respecte des valeurs sans connaître Dieu, soit parce que on lui en a jamais parlé, soit parce qu'on lui en a mal parlé. Si on lui a présenté un dieu fétichiste, il n'a pas envie de croire à ce dieu-là, et peut-être qu'il a à moitié raison, ou je ne sais pas quoi. Celui qui a ces qualités peut en fait croire, me semble-t-il. Alors je vous cite ici Max Weber, qui est un peu déroutant. Max Weber disait, c'est un grand sociologue de la fin du 19e, début du 20e, qui a écrit des choses très intéressantes, mais notamment la formule que tout le monde connaît, c'est le désenchantement du monde. le désenchantement du monde. C'est lui qui a dit ça. Mais il l'a dit avec tristesse. Il l'a dit avec tristesse. Ce n'était pas le but de sa pensée, d'aboutir à le désenchantement du monde. D'autres, après, en ont fait comme un but. Eh bien, il disait, moi, les questions religieuses, ça ne m'a jamais intéressé. Ça ne me dit rien. Il y a des tas de choses qui m'intéressent dans la vie, mais j'ai une oreille amusicale pour tout ce qui est religieux. Vous me parlez de ça, il n'y a rien qui accroche, quoi. Rien. Mais il disait aussi, attention, je ne suis pas anti-religieux. Et je ne suis pas incroyant. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Je ne suis pas incroyant. Je ne suis pas arreligieux, je ne suis pas anti-religieux, mais la religion, ça ne m'intéresse pas. Ça ne parvient pas à m'accrocher. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait quand même une foi, qu'il croyait en quelque chose. Mais comme dit Jaspers, qui est aussi un philosophe, il y a une foi existentielle, une foi fondamentale dans l'existence, qui peut éventuellement préparer à la foi en Dieu, j'en sais rien, mais qui est aussi une forme de foi, de confiance fondamentale dans l'existence, dans la bonté de l'être, dans la possibilité d'être en paix avec ce qu'il y a autour de nous, avec ce qui nous arrive. Et c'est ainsi qu'on peut dire que la foi rejoint très fort la connaissance quotidienne. La connaissance quotidienne et la foi, ce sont deux choses qui se rapprochent. Vous connaissez votre famille, vous connaissez des tas de gens autour de vous, et bien dans la foi, vous êtes en familiarité aussi avec ce Dieu, non pas parce que vous mettez la main dessus, mais parce que cet infini s'est approché de vous et que vous avez l'impression que vous pouvez lui parler comme à un frère ou une sœur. Et Jésus d'ailleurs en parlait avec simplicité également. Jésus parlait de Dieu avec énormément de simplicité en parlant des fleurs, des champs et des paraboles et tout ça. Bon ben, c'était très simple. C'était la semence, c'était le champ. Jésus avait cette familiarité avec Dieu. Alors je termine avec l'unité du sujet connaissant. Ça c'est aussi un point qui me semble fort important. Donc ces différents niveaux de connaissance, ces différents modes de connaissance ou de savoir que j'ai exposés, c'est le même esprit humain qui s'y engage. Ce n'est pas parce qu'il y a des différences de modalité dans la manière d'aborder le monde, je l'aborde de manière scientifique, je l'aborde de manière psychologique, je l'aborde de manière philosophique, je l'aborde de manière religieuse, ce n'est pas parce qu'il y a ces différentes modalités que je suis schizophrène, bien que je fais des clivages et que je ne parviens pas à être cohérent en moi-même. L'esprit humain vit quotidiennement avec autrui, simplement au niveau de la connaissance quotidienne, peut prendre une attitude scientifique, peut commencer à faire des réflexions philosophiques et se sentir engagé personnellement, existentiellement, à hauteur d'homme. Et aussi, pourquoi pas, avoir un moment de prière, un moment d'élévation par rapport à cet infini qui ne supprime pas le reste. Et chaque chose organise la précédente et la suivante. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est la multiplicité des approches de l'être par l'esprit humain, qui n'est pas divisé en compartiments, mais qui est toujours le même sujet, qui est capable de prendre des attitudes différentes. Des attitudes différentes. Des attitudes qu'il doit apprendre aussi à évaluer les unes par rapport aux autres. Il y a des choses qui sont plus rationnelles, des choses qui sont plus personnelles, plus existentielles, quelle est la plus importante, etc. Comment utilise-t-on une chose par rapport à l'autre? Comment l'autre n'est pas utilisable parce qu'elle est supérieure, dirais-je? C'est reconnaître l'unité vivante de la connaissance humaine. Et j'ai remis la formule d'Aristote, que j'ai déjà indiqué une fois, l'âme est d'une certaine manière toute chose, mais je l'ai même mis en grec, cette fois-ci, ça fait beaucoup plus sérieux.
Epsuche ta ontapos esti panta. Nous sommes capables d'être une pierre. Évidemment, ce n'est pas la pierre qui est dans l'âme, mais la forme de la pierre. L'idée de la pierre, disait Aristote. La forme de la pierre. Nous sommes capables d'être toute chose. Et toute chose, et on pourrait dire aussi qu'il n'y a pas que les choses physiques. Il y a des objets qui ne sont pas matériels. Comme dit Marcus Gabriel, dont je vais me servir dans les cours qui viennent, eh bien, l'Allemagne, ce n'est pas un objet physique, hein, ce n'est pas une chose physique. C'est une histoire, c'est un état, ce sont des lois. Voilà, l'amour, c'est la même chose. Une personne, c'est la même chose. Napoléon, est-ce qu'il existe comme une chose? Ben, il a existé comme une chose. Ben, il est un objet de notre histoire très important, notamment pour l'Église, à cause du concordat. Hein. Mais c'est inutile d'aller voir les particules élémentaires qui restent de Napoléon. C'est pas en faisant ça qu'on va savoir qui est Napoléon. Donc il y a beaucoup d'objets qui sont autres que des choses physiques. Et bien donc c'est cette grande variété, cette capacité pour l'esprit humain, avec toutes ses facultés différentes, de rencontrer le réel, la réalité, en faisant la distinction des ordres du savoir, dans le respect des différences, dans le respect aussi des ignorances. L'esprit de l'homme manifeste ainsi son universalité et même sa connivence, me semble-t-il, avec l'infini dans cette forme de connaissance qui est la connaissance de la foi. Voilà. Lorsque nous étudierons l'intelligence artificielle ou bien l'évolution, etc., nous nous poserons la question de savoir s'il y a cette grande palette de possibilités dans l'intelligence artificielle. Si dans l'évolution, on ne se focalise pas sur un aspect de l'être humain et pas les autres. Voilà, je termine encore avec deux petites annexes. Y a-t-il une philosophie chrétienne? Alors, je crois qu'on peut en distinguer deux, en effet. Une d'avant l'acte de foi et une d'après l'acte de foi. Mais bon, c'est peut-être une question qui intéresse moins aujourd'hui, mais on s'est beaucoup battu au début du XXe siècle pour savoir s'il y avait une philosophie chrétienne. Je crois qu'une philosophie est philosophique. Elle n'est pas d'abord chrétienne. Mais elle peut avoir une forme telle qu'elle conduise plus facilement à un acte de foi chrétien. Ou bien, d'après l'acte de foi, qu'elle s'inspire de données de la foi, mais qu'elle va traiter de manière rigoureusement philosophique. Comme un donné à hauteur d'homme que je reçois, que je découvre dans la tradition et j'essaie de l'élaborer. Est-ce que la Trinité, même si je ne crois pas à la Trinité, est-ce que les spéculations sur la Trinité disent quelque chose à l'esprit humain? Voilà, c'est ce qu'a fait Hegel en gros. Et l'apologétique, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline aussi qu'aujourd'hui on ne prise plus beaucoup. L'apologétique, eh bien, c'est précisément une discipline rigoureuse, d'allure philosophique, qui dégage les raisons de croire. Et le plus souvent même, elle dégage surtout les déraisons de ne pas croire, si j'ose dire. Ça veut dire qu'elle dégage le terrain avec tous ces faux arguments qu'on a souvent contre la foi. Eh bien, l'apologétique démontait ces arguments pour dire ce ne sont pas des bons arguments. Si vous voulez attaquer la foi, essayez d'être plus rigoureux, essayez de prendre un autre exemple, essayez de... etc. Et en faisant cela de manière un peu défensive, bien sûr, eh bien, elle dégageait le terrain, pour certains en tout cas, vers la possibilité d'un acte de foi, mais l'apologétique ne pouvait jamais l'imposer. C'était toujours, je dirais, une manière de distinguer ce qui est inutile et ce qui est faux, de ce qui est vrai, et même dans ce qui est vrai, de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Voilà, je m'arrête ici. Si vous avez des questions, on peut encore passer un peu de temps ensemble. Et je vous indique aussi que, avec ce cours, la première partie du cours, et que donc la deuxième partie, pour ceux qui auraient perdu ou le plan, le voici, la deuxième partie du cours va s'intéresser à des questions plus, je dirais, contemporaines. L'intelligence artificielle, l'évolutionnisme, les neurosciences, l'usage malveillant mensonger du savoir, avec l'exemple de la course à la bombe atomique et les fake news,
Et enfin, le négationnisme, le révisionnisme, les gens qui nient certaines choses, la Shoah par exemple, bien que l'homme a marché sur la Lune, etc. Hein, eh bien, et je terminerai aussi avec deux penseurs cyniques, Harari et Sloterdijk. Plus je les lis, plus je pense qu'ils sont vraiment cyniques.